Phil PM. La voix est libre.
Extrait de l'album Abbey Road, le plus célèbre, je pense. Hein? C'est avec Sgt. Pepper.
Oui. Sgt. Pepper est encore un peu plus expérimental. Il cherchait beaucoup en studio. Ils innovaient beaucoup.
C'est vrai. Puis il y avait l'album blanc aussi où ils ont fait quelques tentatives assez particulières. Mais aujourd'hui, on célèbre le 50e anniversaire d'une des photos les plus célèbres de l'histoire.
Hey, c'est ton âge, ça. C'est quelque chose.
Pardon!
Excuse-moi, t'as 45, on le sait. Non?
Ouais, c'est ça, tout le monde me donne 40. C'est mort de gars. Abbey Road, tout le monde se souvient de cet album des Beatles, le dernier album qu'ils ont enregistré en studio. Bien que Let It Be est sorti après la sortie d'Abbey Road, il avait été enregistré avant. Mm-hmm. Donc, à Abbey Road, ce sont les studios où les Beatles ont enregistré 190 des 210 chansons qu'ils ont réalisées. Abbey Road, c'est à Londres. Ça existe depuis les années 30.
C'est encore là. Hein?
C'est encore là, effectivement.
C'est quoi? C'est-tu, ils s'en servent beaucoup. Ils font pas juste des disques, ils font des sons. Moi, je fais moi-même mes drums, je m'assure des sons de drums. Et il y a la banque Abbey Road, parce qu'à un moment donné, il y a des réalisateurs qui comprenaient que le son du studio Abbey Road était inégalé nulle part. Fait qu'ils envoyaient leur drummer jouer là-bas.
Oui.
Puis ils faisaient tous les tracks de drums, puis ils revenaient. À un moment donné, les studios Abbey Road, ils ont compris. Ils ont enregistré des drums eux-mêmes, puis ils vendaient les sons comme ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec ça.
Alors, cet album-là a marqué l'imaginaire et est venu couronner une des carrières les plus incroyables. Je veux dire, les Beatles, comme moi, t'as grandi avec ça. Moi, je me souviens de la gardienne qui était venue nous garder à la maison quand j'avais 7 ans ou 8 ans, puis qu'on nous avait fait jouer « Love Me Do ».
Ah oui.
Puis quelques « I love you, yeah ».
Oh ouais, leur premier hit, là. Tu sais, c'était dans le temps des tunes de 2 minutes et demie.
Oui, oui, c'est ça.
Love you, yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah. Ba-da-da-da. En tout cas.
T'as une belle voix de basse, mon cher Luc.
Mais en tout cas, je vais te laisser ça, Dan. Mais cet album-là est un album historique. C'est un album qui a marqué son temps.
Va essayer d'oublier ça. C'est dans toutes mes tunes, mais dans toutes les tunes de tout le monde, il y a du Beatles. On n'a pas le choix.
Ils ont établi un nouveau standard. Ils ont été les premiers à... D'abord, au départ, tu ne pouvais pas avoir un band plus terre-à-terre que ça. Deux guitares, une basse puis un drum. Mm-hmm. Puis avec le temps, c'est eux autres, avec George Martin, qui était leur producteur, tout ça.
Il appelait le cinquième Beatle, littéralement, puis il était très créatif aussi.
Extrêmement brillant aussi, et qui a créé toutes sortes de sons ça a fait réaliser aux autres que c'était fini le temps où on faisait juste une petite, comme disait mon ami Paul Baillargeon, une petite tounette, là. Il fallait commencer à être plus créatif, plus inventif, plus...
C'est vrai qu'on partit les tounes plus longues, aussi, qui étaient hors format radio, puis qui se sont mis à tourner en radio. Et des années après, t'as Queen qui tourne avec Bohemian Rhapsody, mais si les Beatles n'avaient pas mis à table avant, ça n'aurait jamais passé.
Probablement, oui. Et revenons à cette photo dont on célèbre le 50e anniversaire aujourd'hui. Cette photo-là, qui a fait, évidemment, est restée marquée. Écoute, elle a été prise à 11h35 le 8 août 1969. Et contrairement à toi qui es dans le monde du show business, tu sais ce que c'est un photo shoot. Ça finit plus. T'sais, à chaque fois que tu dois participer à un photo shoot, ça finit plus.
Une seule chose. Moi, j'adore mon métier. Une seule chose qui me fait que je trouve nul à se chier dans le crâne. Excuse-moi, c'est les sessions photos, je ne suis pas capable.
Ben, mais tu sais donc de quoi je parle.
En plus, je ne fais pas de bête. Parce que ça
prend, pour finir avec un cliché, ça prend quasiment 2 heures de travail, puis tu sais plus.
Deux heures. Plus long dans mon cas.
Ah oui, plus.
Je suis lettre, moi, c'est long, hostie.
Mais dans ce cas-là, ça leur a pris, je crois que c'est 10 minutes.
Ah oui.
Le photographe, nommé Macmillan, est monté sur un escabeau. Ils ont choisi une heure où il n'y aurait pas trop de monde dans la rue.
Ouais, parce que ça passe vite sur Abbey Road. Là. Il y a beaucoup
puis,
de trafic.
Il a pris 6 clichés, essentiellement, paraît-il, tous à peu près pareils. Il y en a un qui a été choisi, qui est devenu cette photo-là. Et là, toutes les théories de complot, tu dois t'en rappeler.
Je m'en souviens.
Écoute, je la regarde, la photo. Là. Les gens qui s'en souviennent pas, là, en tête, qui sont en train de traverser un passage pour piétons sur Abbey Road, le chemin qui mène directement au studio. En tête du groupe, vous avez John Lennon, tout en blanc, tout habillé en blanc, un costume blanc, les cheveux très longs, tout ça. Derrière lui, vous avez Ringo Starr, qui lui est tout en noir, complètement. Derrière, vous avez Paul McCartney, qui est nu-pied.
Et tout en gris.
Et tout en gris. Et vous avez derrière lui George Harrison,
tout
qui
en
lui
bleu,
est en jeans, en denain. Et là, la théorie qui s'était développée, puis qui se répandait... Puis une des théories. Moi, mettons, j'avais 14 ans. Là, fait qu'on embarquait.
On faisait des théories, nous autres. Ben oui.
Puis on suivait ça dans tous les magazines de l'époque, puis les petits journaux du père Pelado, puis tout. On surveillait tout ça. Alors, la théorie, c'est que John Lennon est tout en blanc parce que c'était un célébrant, au sens religieux de la chose.
Okay.
Ringo Starr, tout en noir parce que c'était un entrepreneur de pompes funèbres. Paul McCartney, nu-pied avec une cigarette, c'est que ce serait Paul McCartney. Ça viendrait confirmer que Paul McCartney, comme le voulait une certaine rumeur, était décédé et que c'était un sosie qui avait pris sa place.
Oui, je me rappelle.
Et le dernier, George Harrison, en donnait. Était habillé en vêtements de travail, comme on les percevait à l'époque, parce que c'est lui qui était le fossoyeur. Alors ça, c'était la théorie qui a été développée.
Okay.
Évidemment, elle ne tenait pas debout, la théorie, là, ça n'avait aucun sens. Puis pas juste ça.
Plus quelque chose est gros, plus les théories sont nombreuses et farfelues. Les gens ont besoin d'en avoir un morceau, quitte à se l'inventer.
Mais les Beatles, ça a été ça, là, tu le sais, Dan, à partir du moment où
tellement
ils sont
devenus
des mégastars, à partir de 62, pour une période d'à peu près 8 ans, et tout ce qui concernait les Beatles, c'était 100 fois plus grand que tout ce qu'on avait jamais vu avant. On y donnait des significations, on interprétait chaque affaire. Tu te souviens?
Hey, John Lennon avait fait un scandale. Il disait on est plus populaire que le Christ.
Oui, c'est ça.
Et c'était vrai.
Et c'était
à
vrai.
À ce moment-là, c'était vrai, mais ils se sont
fait. Tu te souviens sur l'album blanc, là, cette espèce de fausse musique? Puis t'entends.
Oui.
Je ne sais plus trop c'est quoi que t'entends. Puis il y en a.
Star.
Là, les gens disaient « Ah, ça, c'est un message satanique dans ça. »
Oui, fallait jouer à l'envers.
Alors, Paul McCartney, en plus, dans les théories de complot, faut voir qu'il tient une cigarette de sa main droite alors qu'il est gaucher. Alors là, des gens disaient « C'est la preuve que c'est pas lui, il aurait jamais mis ça du côté droit. » Évidemment, tout ça, c'est totalement farfelu. Aujourd'hui,
c'est juste quatre gars qui faisaient de la musique puis qui étaient hyper brillants puis qui ont littéralement créé un nouveau son, une nouvelle vague, mais c'est quand même quatre humains, là.
Ben, tu sais, aujourd'hui, quand on regarde en rétrospective, il y avait des faiblesses dans le band. Je veux dire, Ringo Starr, c'était peut-être le drummer le plus ordinaire que j'ai entendu avoir du succès. Boum, bada, boum, pish, pish. Boum, bada, boum, bada, boum,
pish, pish. Oui, mais c'était celui qui fitait le mieux avec les Beatles. Parce qu'un bon drummer, c'est celui qui s'intègre au groupe. Moi, je cherche ces drummers-là qui ont un son spécial. Au lieu d'être des virtuoses, mais des fois, ils sont les deux.
Ouais.
C'était pas un grand verso, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est... Puis c'était pas un grand chanteur non plus.
Puis le génie de la mélodie, ben, il appartenait à McCartney. Et
ça,
à
c'est
Lennon.
Ringo qui chante ça.
Eh oui. Ben oui. Une des seules qui a été enregistrée par Ringo. Si c'est pas la seule, une des deux.
Il y a eu Sweet 16 aussi.
Non, mais
puis
ça, il
Yellow Submarine.
C'était
sa carrière à lui.
C'est sa carrière
Yellow Submarine.
Yellow Submarine, c'est vrai, t'as raison.
We all live in a Yellow
Alors, t'avais
submarine.
Ces deux génies de la mélodie, puis de la toune, puis de l'affaire qui accroche, du verre d'oreille, qui étaient McCartney et Lennon.
Ce qui était dur pour Harrison, c'est que lui faisait ses chansons seul, alors que Lennon McCartney, c'était vraiment un duo, puis qui écrivait des tunes, que c'était une machine à écrire,
ah,
ces deux-là ensemble,
hein?
À toute vitesse. Puis George, lui, c'était long faire ses tunes, fait qu'il se ramassait avec moins de tunes, il recevait beaucoup moins de droits d'auteur, il était beaucoup moins riche que Lennon McCartney. Il s'était toujours senti un peu à part, ça, puis il a eu de la misère à le gérer.
Et voilà. Ah, ouais. George Harrison. Ça, c'était son album solo, ça. Here Comes the Sun. Non, c'est extrait des Beatles, ça.
C'est sur Abbey Road.
Abbey Road, effectivement.
Ça, c'est John, ça. On reconnaissait leur voix quand même. Et puis le ténor de la gang, celui qui était tout le temps en haut, ça, c'était Paul McCartney.
Ben oui, puis Paul McCartney, c'est incroyable. Sa carrière continue aujourd'hui. Il est encore oui. une des plus grosses vedettes du monde entier.
Quand il fait un show, il joue 3 heures. Il n'est pas fatigable.
Ah, puis avec c'est un fou de scène. Une énergie. Une énergie. Mais je pense qu'il y a encore des débats chez les gens de ma génération. Qui était le meilleur entre les deux, McCartney et Lennon, ou Lennon? Parce que c'est pas vrai que toutes les tunes ont été écrites ensemble. Il y en a un qui en écrivait une, puis l'autre n'écrivait l'autre. Puis là,
ils faisaient beaucoup ensemble quand même. Mais t'as raison, ils avaient chacun leur tune aussi.
Alors
mais tu sais, c'est un débat qui existait dans leur tête aussi. C'est une des raisons pour lesquelles ils se sont séparés. C'est qu'ils avaient besoin de réaliser « je suis un humain complet ». Je suis pas un corps de quelque chose. C'est important à un moment donné. Fait qu'ils ont fait ça, chacun de leur bord, ils ont fait des carrières. Puis John aurait continué s'il n'avait pas été assassiné.
Ils ont fait des carrières. Ils ont fait des carrières assez limitées, sauf dans le cas de Paul McCartney. John Lennon était parti pour avoir une carrière fabuleuse, mais il s'est fait assassiner. Ringo Starr, qui a eu une carrière à la hauteur de son talent limité, à mon avis. Paul McCartney, ça n'arrête jamais, c'est une machine. Et George Harrison, ben, il est mort prématurément.
Paul McCartney a un record Guinness.
Lequel?
Il a fait faire le plus de faillites à des compagnies de disques. Il est tellement dur en affaires, là.
Ah oui?
Oh oui, très, très, très dur en affaires. Puis les compagnies veulent absolument l'avoir. Fait qu'ils payent le gros prix, donnent des grosses avances, puis ils rentrent pas tout le temps dans leurs frais. Fait qu'il y a le Guinness d'avoir fait le plus de faillites. Et le Guinness, je crois qu'il est encore dedans comme le musicien le plus riche. Je sais pas, mais ça l'a été pendant des décennies.
Ben, je veux dire, j'ai jamais vu de chiffres. Peut-être que j'en ai vu, puis ils me reviennent pas en tête, mais... J'aimerais connaître le montant de droits d'auteur généré par le duo Lennon-McCartney. Ça doit être incroyable. Ben, ça doit continuer. Non?
Oui, ça continue. Je vais t'expliquer un peu comment ça marche. Juste le droit d'auteur, en fait, c'est qu'une chanson, c'est 4 parts. Tu as 2 parts, qui t'en as une que c'est le compositeur qui fait la musique, l'auteur fait les paroles. Mm-hmm. Et après ça, tu as l'éditeur du compositeur qui a un autre corps, puis l'éditeur de l'auteur. Donc, il y a 4 parts. Et eux autres, ils n'étaient pas éditeurs de leur chanson, ils avaient cédé ça à Apple.
Oui.
Mais juste avec leurs droits d'auteur, ils sont mis riches. Mais imagine les droits d'édition, donc qu'est-ce que c'était. Et puis, pendant que Paul McCartney chantait en duo avec Michael Jackson, par en arrière, a racheté tous les droits d'édition des Beatles. Ça a l'air que Paul McCartney voulait le tuer sur place. Il était... Mais ça fait des années qu'il essayait de récupérer les droits sur ses tunes à lui.
Ouais.
Il n'a jamais pu. Et c'est encore à ce jour. Ça appartient à la succession de Michael Jackson. Et c'est, laisse-moi dire que c'est un robinet à cash.
Ah, j'en suis convaincu, c'est énorme.
La famille Jackson est bien contente.
C'est ce qui est resté.
Les aléas de la business.
Enfin, Dan, voilà, je pense que ça valait la peine de le souligner. Moi, quand je vois ces photos-là, quand j'entends ces chansons-là, tout ça, c'est toute une époque de notre vie. C'était une époque où l'espoir était permis dans tout, on rêvait à tout.
Il y a une chose à laquelle on ne rêvait pas. C'est qu'on sera ensemble pour célébrer le 50e anniversaire.
Ça, on ne l'avait pas prévu.
Ça, il n'y a personne qui a pu venir ça.
Je suis heureux d'être en ta compagnie.
Hey, mon Luc, j'ai vraiment apprécié toute notre trip. Puis ça démontre comme quoi on se connaît peu dans la vie. Puis c'est pour ça qu'on chicane trop. Parce qu'on a beau être des adversaires politiques, c'est pas une raison pour s'haïr. Il y a des gens qui font des actes répréhensibles, mais les opinions politiques, c'est pas ça. Puis je trouve qu'on gagne à se découvrir. J'ai découvert un homme cultivé, intéressant, puis ça m'a fait plaisir. Puis j'ai beaucoup de fun avec toi. Puis Dieu merci, il nous en reste un petit peu. Là. On n'a pas fini.
On n'a pas tout à fait fini encore.
Fait que là, on s'en va à la pause et de retour, ça continue. Luc Lavoie. Ah ouais, avec ce tune-là.
Ça, c'est beau, ça.
Ils harmonisaient les voix, là.
Because the wind is high, our love is old, love is new.